Bonjour et bienvenue à Point de vue, l'émission 100% cinéma à Montréal. Épisode 3 consacré au TIFF. On est à mi-chemin en fait, ou du moins en début de parcours entre Toronto et Montréal. On est en plein mouvement. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mon invité.
Olivier Bouchard des Fiches du cinéma.
Oui, les fichesducinema.com, c'est important de le souligner. Alors voilà, le TIFF c'est déjà fini. 8 jours de bonheur pour nous. Le festival se conclut dans 2 jours, mais pour nous, c'est la fin de l'aventure. On est dans un autobus en ce moment et on se dirige vers Montréal. Donc, on va faire un peu le bilan de notre expérience. Vous dire les derniers films qu'on a vus dans les derniers jours, ainsi que peut-être nos coups de cœur, nos coups de gueule rapidement. Donc, Olivier, je te laisse commencer. Quel film tu veux parler?
Penance aujourd'hui parce qu'on l'a regardé pendant 4 h 30, donc je pense que ça reste dans l'esprit.
Oui, pour un peu mettre en contexte, Penance, c'est une mini-série qui a joué au Japon, japonaise d'ailleurs, qui a joué au Japon en janvier. C'est 5 épisodes d'1 heure qui ont été remontés pour un montage cinéma. Une série qui a été réalisée et écrite par Kiyoshi Kurosawa, d'après un roman de, je me rappelle plus son nom. Donc voilà, une série dramatique à propos d'une mère qui perd sa fille.
Ouais, ben c'est exactement ça, sauf que en fait la série, les 5 épisodes vont suivre un personnage différent. Le cinquième, ce sera celui de la mère. Puis les 4 autres épisodes, ce sera en fait vont suivre des témoins du meurtre de la fille, de la mère du cinquième épisode. Moi, je connaissais pas Kiyoshi Kurosawa en fait, et j'ai trouvé ça relativement intéressant, mais c'est pas un très grand film, c'est pas un très bon film. Et l'origine télévisuelle paraît beaucoup. Dans le sens que c'est très verbeux, l'intrigue se base beaucoup dans le dialogue et généralement il n'y a pas une mise en scène qui est très travaillée, sauf qu'on voit quand même que Kurosawa est un cinéaste vient du cinéma et non de la télé parce que par moments il va avoir des moments qui vont se démarquer par la mise en scène en fait ou qu'on va avoir quelque chose de très cinématographique. Donc, en fait, les 4 premiers épisodes, je les ai trouvés assez bien, si on peut dire. C'est séparé en chapitres dans le film aussi, donc on est capable de savoir où sont les épisodes. Par contre, tout s'effondre assez lamentablement dans le cinquième épisode, qui est dans le fond où tout se résout dans le cinquième épisode, mais ça se fait que par le dialogue, fait que ça va être pendant 1 heure des dialogues explicatifs pour tout résoudre. C'est franchement ennuyeux. Et alors que pour un film de 4 h 30, on s'ennuyait pas trop jusqu'à présent, mais ça termine très mal la chose.
Oui, je suis d'accord. Puis en fait, le dernier épisode, c'est même pas tant qu'il résout l'intrigue, parce que j'appelle pas ça la résolution, c'est seulement de l'exposition de nouveaux éléments qui semblent apporter un peu comme un cheveu sur la soupe, finalement, parce que ça arrive, ça vient de nulle part, et puis là, on explique pourquoi tel personnage agit comme ça. On trouve des motivations au personnage qu'on n'a pas réussi à avoir dans les 4 heures précédentes, donc c'est très décevant de ce côté-là.
Oui, puis on essaie de créer aussi des surprises à l'intérieur du dernier épisode, mais étant donné qu'on rajoute des éléments, un film qui existe depuis 3 h 30, ben c'est comme si on changeait de perspective tout d'un coup, en fait. Et ben, c'est un peu triste parce que le spectateur n'a plus l'impression d'être dans le même film. Ça me donnait cette impression-là personnellement.
Ouais, non, d'accord, mais c'était quand même pas mal. Et puis, bon, pour ceux qui sont particulièrement fans de Kiyoshi Kurosawa, j'imagine qu'ils vont l'ajouter à sa liste. C'est pas non plus un navet.
Non, c'est pas un navet. C'est bien de faire un film aussi long que pendant, comme je dis, moi, les 3 premières heures et demie, je me suis pas ennuyé du tout. C'est quand même déjà assez bien. Et ça demande une certaine rigueur d'écriture qui est là la majorité du temps, je pense.
Ouais, je suis d'accord. Ensuite, il y a un film que je veux absolument parler parce qu'en plus, on l'a vu tous les deux. Et c'est vraiment pour moi l'un des 2 navets du festival que j'ai vu. Est-ce qu'on a parlé de Caught in the Web de Chen Kege dans le.
Je pense que ouais.
J'ai comme un trou de mémoire si on en a juste parlé entre nous ou si on en a parlé sur le podcast. Mais bref, l'autre grosse bouse du festival, c'est Passion de Brian De Palma. Brian De Palma, que bon, c'est un cinéaste très important. On reviendra pas sur sa filmographie, mais tu sais, dans les, je sais pas, 10, 15 dernières années, c'est pas tout à fait ça. Et puis ça-là particulièrement, là, c'est, tu sais, il y a des films que j'ai bien aimés dans ces derniers, là. J'ai quand même, Black Dahlia, je trouve qu'il y avait des belles idées quand même. Je trouve que c'est relativement chiant, mais c'est quand même très beau. Puis il y a quand même des bonnes idées de mise en scène, mais Passion, sérieusement, c'est de l'auto-parodie. C'est vraiment De Palma qui tombe dans son propre piège d'agiter son style de manière complètement superficielle et injustifiée à une trame absolument nulle et sans intérêt.
Tu as parfaitement raison de dire qu'il agite son style de façon injustifiée, de façon superficielle, et que la trame n'est pas vraiment intéressante. Sauf que je pense qu'il le fait avec une certaine ironie que moi, j'ai trouvée amusante. Donc, je pense pas que ce soit un aussi gros que navet que tu le dis.
Mais, je veux dire, c'est pas parce qu'un cinéaste est conscient que son film est pourri que le film devient meilleur.
Non, effectivement, ça fait pas qu'il est meilleur, sauf que le film est pas complètement pourri. Il y a quand même une technique qui est pas si mal. Il en fait beaucoup trop avec, mais... À l'habitude, De Palma, il reprend ses petits effets de style. En fait, il y a des plans-séquences subjectifs, il va avoir des split-screens, il va avoir, en tout cas, ce qu'il fait d'habitude, des doubles focales aussi. Puis c'est quand même relativement bien fait, c'est quand même relativement intéressant. C'est juste que c'est fait sur une trame qui est vraiment à prendre au second degré.
Mais déjà, je trouve que ce que tu me décris, c'est un peu comme ça pullule sur YouTube. Et tu sais, les usagers font souvent ça comme « Et si tel film était réalisé par Wes Anderson? Et si tel film était réalisé par... ou tel pub était réalisé par Quentin Tarantino? » Dans le sens que, c'est oui, on spot des techniques qui sont de palmesque, devrais-je dire. Comme tu l'as dit, le split screen, la double focale, j'ajouterais les éclairages d'ombre. C'est très inspiré de films noirs et c'est très Hitchcockien, particulièrement dans la deuxième partie. Puis encore là, je trouve qu'il y a une rupture de ton dans le film. Soudainement, autour de la 40e minute, 45e minute, De Palma se rappelle qui il est et ajoute une couche de style parce qu'il oublie de le faire dans les 40 premières minutes. Donc, soudainement, il y a plein d'ombres partout. C'est éclairé. Vraiment, ça fait très film noir. Tu sais, il y a la lumière qui passe à travers les rideaux puis ça fait des ombrages horizontaux sur les gens. Puis, c'est pas justifié parce qu'au début, c'est tout le temps bien éclairé. Tu sais, puis ils sont dans un bureau, mettons, c'est l'heure du lunch. Sauf que personne n'allume la lumière. Puis, tu sais, il lunch dans le noir. Donc, pour moi, ça marche pas du tout, là.
Ouais, effectivement, c'est pas justifié du tout. Je pense que c'est vraiment... Justement, c'est tellement apparent que ça en devient ridicule. C'est que pour le geste du réalisateur, pas pour l'univers du film.
Donc, d'où vient l'intérêt d'un tel film? À part peut-être une espèce de nostalgie de dire que j'ai déjà été un bon cinéaste.
Ben moi, ça m'a amusé. C'est pas un film que je trouve très bon, mais c'est un film que j'ai trouvé plaisant, à défaut d'être intelligent pour toute la durée.
Bref, Passion de De Palma. J'ai hâte d'avoir des commentaires, mais qui sortent en salle du feedback des auditeurs et de mes amis, parce que peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas vu qu'est-ce qu'il y avait à voir dans le film. En tout cas,
je pense que ça va se faire détruire par la critique américaine, par contre. Okay. Assurément.
Pourquoi américaine? Tu penses qu'il y a une grosse différence entre la critique américaine et la critique peut-être européenne, française? Ou...
Moi, je pense que les Français, d'un, aiment beaucoup De Palma. De deux, un cinéaste qui reprend justement les codes de son propre cinéma puis qui les subvertit un peu de façon humoristique. Ils adorent ce genre de trucs.
En tout cas, le ridicule ne tue pas, ça c'est clair. Quel autre film que tu as vu, Olivier, au festival?
J'ai vu The Impossible, j'ai vu Spring Breaker. Il y en a un, tu veux que je parle?
Spring Breaker, tu n'en as pas parlé encore sur le podcast. C'est un film très attendu d'Harmony Korine. Je voulais aller le voir, puis je me suis fait refuser l'accès parce que c'était complet quand je voulais y aller. Donc, qu'en est-il du dernier Harmony Korine?
Moi, j'avais jamais vu non plus de film d'Harmony Korine. On me disait beaucoup de bien, donc c'est une grosse déception parce que j'ai trouvé ça absolument infect. Le nom le dit, c'est une gang d'adolescents qui vont spring break, qui vont finir par rencontrer une espèce de gangster là et rentrer un peu dans sa gang. Il n'y a pas vraiment de trame narrative, sauf que je pense que c'est relativement assumé. C'est un peu plus. C'est pas un film complètement expérimental, mais c'est un film qui est basé sur son style. Puis malheureusement, son style, je trouve que c'est un vidéoclip, c'est du tape à l'œil, c'est des effets de style constamment. Sur la musique de Skrillex ou sur la musique populaire autre. Il y a un moment où il va faire un plan-séquence, mais ça ne sert à rien au film. Sinon, il va faire des montages vraiment rapides, des montages qui vont suivre la musique ou des montages qui vont suivre plusieurs récits qui ne sont pas vraiment importants en même temps, mais juste pour l'effet de style. Et sinon, je trouve que soit il assumait complètement les révérences de la chose parce qu'il fait un film sur le Spring Break, fait que nécessairement on va suivre une gang d'adolescents un peu qui font des débilités, soit il assumait complètement la chose et faisait un film vraiment irrévérencieux, soit au contraire il était moralisateur envers eux. Puis il trouve pas de réponse à ce dilemme-là. Dans le fond, il prend une espèce de distance face à ses personnages, un peu une distance ironique que je trouve vraiment facile, dans le sens qu'il est un peu moqueur envers eux, mais qu'il utilise quand même leur stupidité pour provoquer un peu une violence dans le spectateur en faisant des close-ups de seins, des close-ups de fesses à fond, sans arrêt, juste pour choquer, pour montrer « Ah, regardez comment on s'amuse à faire les cons et tout ça ».
Donc, finalement, c'est beaucoup plus le style qui prend le devant de la substance?
Ouais, ben, assurément, sauf que je pense que c'était assumé. Si le style avait été vraiment intéressant et vraiment nouveau, ça aurait été quelque chose, mais c'est pas le cas.
Donc, lorsqu'Harmony Korine ne repose que sur son style, c'est une bouse, puis quand c'est De Palma, c'est génial?
Mais De Palma critique son propre style, fait qu'il y a un fond dans son style.
D'accord. J'essaie de suivre, là. Mais d'accord, donc vraiment, il n'y a rien à tirer de Spring Breakers. Est-ce que c'est amusant? Est-ce que c'est drôle?
Il y a une partie drôle dans le centre, en fait, quand Franco arrive, son personnage a un discours sur le rêve américain qui est très, très, très drôle. Mais c'est le seul passage qui passe parce que finalement, le film est beaucoup plus sérieux qu'il en a l'air. Il y a une espèce d'ironie qui dure tout le long, sauf que c'est une ironie vraiment facile par rapport à ces personnages de regarder soit comment ils sont cons ou quoi que ce soit. Donc c'est pas très drôle. Et quand les choses commencent à mal se passer pour eux, ben, le film devient assez sérieux, curieusement, puis de façon plutôt banale.
Donc est-ce que tu crois que c'est une espèce de film commercial qu'on a essayé de faire passer pour un film d'auteur dans un festival comme Toronto?
Ben, c'est Projet X, version tournée par un réalisateur indépendant.
D'accord, donc je pense que ça donne quand même une bonne idée. Projet X qui n'était pas non plus génial. Là.
Moi, j'avais trouvé ça assez nul aussi. Donc,
voilà, Spring Breakers, une grosse déception au festival. Je sais qu'un de mes collègues, Rémi, ben en fait, mes deux collègues, Pascal et Rémi, sont des gros, gros fans d'Harmony Korine. Donc, j'ai hâte de voir leur feedback sur le prochain, quand il va sortir au Québec. À part ça, moi, j'ai vu des gros films dans les derniers jours. Dans les trois derniers jours du festival, je dirais que j'ai été comblé en fait par mes meilleures expériences cinématographiques, même si j'ai eu quelques bons films au départ. Un film qui m'a vraiment époustouflé tout le long de ces 320 minutes, c'est le épique, le magistral Gangs of Wasseypur. Faudrait que je recheck le nom, je l'ai pas avec moi, j'ai pas mes notes, mais bon, un réalisateur indien qui a fait beaucoup de films en Inde, évidemment, qui est également le scénariste de One Dan, un des films indiens les mieux cotés des dernières années, les plus récompensés dans le monde. Donc, ce nouveau film, Gangs of Wasseypur, qui est présenté en deux parties, mais qui est considéré comme un gros film, en fait, de 5h20, c'est un film sur le milieu mafieux en Inde, plus précisément dans la ville de Wasseypur. Et c'est vraiment une orgie cinématique, kinétique, géniale. C'est vraiment fluo de partout. Il y a plein d'énergie. C'est vraiment du cinéma d'action assumé. Et c'est vraiment vivre le cinéma par la culture bollywoodienne. Mais ce qui est très bien aussi, comme je t'expliquais hors les ondes, c'était que c'est vraiment le film qui est l'anti-Bollywood, finalement. Parce que, bon, je suis vraiment pas très familier avec le cinéma bollywoodien, outre que je connais les codes et que j'ai déjà vu beaucoup d'extraits de films, mais j'en ai peut-être vu 2-3 dans ma vie, là, des Bollywood au complet. Là. Donc, mais on connaît tout un peu l'esprit Bollywood. Puis je pense que ce qui est très difficile, ce qui est très dur d'accès pour nombre de cinéphiles qui sont pas très familiers avec le cinéma de Bollywood, pourquoi c'est si fermé, entre autres, c'est l'utilisation des chansons et des danses, des chorégraphies. Lorsque soudainement dans un récit les acteurs se mettent à chanter, puis ça, pour nous qui ne sont pas habitués à ça, ça brise vraiment il y a comme une rupture qui se crée de ton. Et puis bon, malgré qu'il y a des comédies musicales aussi en Amérique du Nord, et puis il y a une très grande culture de comédies musicales aux États-Unis, mais bon, le milieu quand même du cinéma bollywoodien est quand même très austère. Et puis là-dedans, c'est vraiment une tentative de réconciliation entre l'Est et l'Ouest, si je puis dire. Et puis le premier plan de ce monument de 5 heures, c'est un long plan séquence qui commence avec un insert sur une télévision, mais ça on le sait pas tout de suite. on voit un vieux soap indien, en fait, avec des chansons ridicules et divinités indiennes qui dansent. Là, il y a un très, très long travelling arrière, ou zoom arrière, je ne suis plus sûr. On voit que c'est une télévision. Puis là, il y a une famille qui regarde. Et puis, soudainement, il y a une fusillade qui éclate dans la maison. Et puis, plein d'actions partout. La télé brise, il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique bollywoodienne. On sort de la maison. Et là, on voit qu'il y a une gang qui arrive dans une van. Il y a d'autres gens en moto avec des mitraillettes. Il y a des gens qui sortent des maisons pour essayer de se défendre, pour tirer des roches, pour tirer avec leur AK-47. On se met à suivre un gang, on rentre dans un véhicule. La caméra, il n'y a aucune interruption, c'est un long plan séquence. On arrive ailleurs, on va en face d'une espèce de gros palais. Il se met à cogner dans la porte, à pitcher des grenades dans des fenêtres pour exploser les portes. Et puis là, il y a comme ça coupe éventuellement, mais c'est un plan qui dure comme 3 minutes ou 2 minutes et demie, je ne sais pas trop. Puis c'est vraiment un merveilleux plan d'ouverture, puis ça, c'est vraiment une bonne mise en bouche pour ce qui s'en vient. Puis je pense que ça vient dire vraiment comme on n'assiste pas à un Bollywood. Là. Si la seule image que tu as de Bollywood, c'est les divinités à la télévision, ça sera pas ça. Genre. Puis c'est vraiment un plan qui est génial. Ça me faisait d'ailleurs un peu penser au plan de Place Beyond the Pines, qu'on a déjà parlé. Une espèce de gros plan d'ouverture vraiment qui vient mettre la table.
Et qui donne le ton. Par contre, je vais te demander, en France, le film est exploité les deux séparément, j'imagine pour des raisons commerciales, les deux parties séparément. Est-ce que tu penses que le film peut survivre comme ça ou c'est vraiment problématique?
Non, c'est vraiment être pris comme un gros film. C'est un peu comme, je sais pas si tu as vu Le Che de Steven Soderbergh ou il y a eu bon, Les Messerines, il y a eu même Kill Bill, mais Kill Bill, il y avait quand même plus un sens de une unité, comme chacun quand même peut être vu indépendamment l'un de l'autre, mais ultimement, Kill Bill, pour moi, c'est un gros film, tout comme Le Che. C'est un film vraiment qu'il faut voir ensemble, parce qu'il y a comme un gros cliffhanger à la fin du premier. Puis, bon, on pourrait aussi écouter seulement le premier Gangs of Wasseypur, qui dure 2h40, et avoir une très bonne expérience, je veux dire. Mais le récit est tellement, tellement intéressant. Puis, bon, c'est rien de classique, hein. C'est vraiment une histoire de la mafia. Ça débute dans les années 40. Bon, c'est dans le milieu des Indes. Puis c'est très basé sur. C'est vraiment basé sur des faits, en fait. Le réalisateur était là, il a donné un long Q&A. Et puis, il expliquait que, évidemment, il a changé les noms, il a changé quelques. Mais tu sais, tout ce qui est. Tous les faits, en fait, c'est véridique. C'est vraiment des événements qui sont passés, mais il a changé la chronologie. Le personnage principal est inspiré de trois gangsters, en fait. Donc, tu sais, il a joué avec la véracité des faits, mais les faits sont là. Tu sais, il y a vraiment eu, tu sais. Puis, en gros, c'est ça. Ça commence par des exploitations de mines dans les années 40. Et puis, ça va des années 40 jusqu'à 2010. Là, c'est vraiment une espèce de. Tu sais, c'est un peu comme dans Godfellas, c'est 30 ans dans la vie de la mafia, mais là, c'est comme trois générations de mafia, puis de guerre de gang, puis c'est vraiment impressionnant. Et puis, rapidement, la première partie. Ça se concentre sur vraiment deux guerres de gangs, finalement. Une qui est vraiment établie, qui contrôle les mines, et puis un qui était mineur, finalement, qui s'échappe, qui fait une mini-révolution. À peu près après 30 minutes, ce gars-là est assassiné, mais il y a un fils qui, lui, à l'âge de 10 ans, son père est tué devant lui par le don qui contrôle le village. Et puis, il se coupe les cheveux et puis il dit... je vais juste me laisser pousser les cheveux lorsque ma mission sera complétée, qui est de venger mon père. Puis là, on, dans le fond, sa vie va être consacrée à la vengeance de son père, et puis lui devient une espèce de révolutionnaire qui va comme, passons vraiment surexploiter les travailleurs en Inde. Donc, il se met à ramasser une espèce de contingent de personnes qui lui sont fidèles, commence à faire du trafic, à prendre le contrôle d'un petit quartier, ensuite un autre quartier. Tu sais, la structure là, mafia typique, ou même Cœur Vaillant, c'est un petit peu ça, tu sais, l'espèce de gars du peuple qui sort et qui se construit une armée. Et puis le premier film finit lorsque ce personnage-là, qui a fait une révolution, qui est maintenant rendu le gars le plus respecté de Wasseypur, se fait tuer dans une attaque surprise. Sauf que l'homme laisse derrière lui 5 enfants. Et puis c'est comme ça que commence la deuxième partie, en fait. C'est comment que les 5 enfants vont assurer la relève et éventuellement se partager le pouvoir et vouloir se venger. Donc vraiment, si vous êtes... Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce film-là, dans le sens qu'il n'y a rien qui révolutionne le cinéma. Il n'y a pas d'idées de cinéma qui n'ont pas déjà été inventées, mais c'est vraiment... The Godfather ou Godfellas ou tous ces films-là, si vous avez aimé ça, c'est la chronique de gangsters indiennes. Je pense que ça va. Ben, j'en ai pas vu des masses, hein, des films indiens. Mais sérieusement, si vous aimez les films de gangsters, c'est un film à voir. C'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Et puis, une totale surprise parce que je m'attendais à rien. Dans le sens que j'avais pas d'infos sur c'était qui le casting, c'était qui le réalisateur, et puis ça a été vraiment génial. Donc je le conseille, même si j'ai des gros gros doutes par rapport à ce que ça va sortir en salle, est-ce que ça va sortir en DVD. On le sait à quel point c'est dur à trouver du cinéma bollywoodien, mais celui-ci c'est peut-être le film qui aurait une chance de sortir vu que c'est justement pas le cinéma Bollywood typique.
On lui souhaite de sortir au Québec, donc...
Ouais, si pour tous les distributeurs qui m'écoutent, Alliance et etc. Non, mais sérieusement, ça serait vraiment bien que quelqu'un ose le sortir parce que ça c'est un 5 heures qui en donne beaucoup là.
D'accord. On peut parler d'Argo?
Ouais, vas-y. Argo que je n'ai pas vu non plus, malheureusement, c'est un des films que j'ai pas pu faire fit à mon horaire. Le troisième film de Ben Affleck qui s'attaque à encore une histoire vraie. Basé sur un truc assez absurde, en fait, qui a eu lieu dans les années 70?
Oui, dans les années 70 à peu près, où en fait, le FBI a été obligé d'inventer un faux film pour aller chercher des gens qui travaillaient à l'ambassade des États-Unis en Iran. L'ambassade était attaquée par... un mouvement de foule, si je peux dire, des manifestants mélangés avec un certain nombre de terroristes. Je ne vais pas commencer à faire de jugement sur ce mouvement-là, surtout que le film n'en fait pas la majorité du temps, disons. En fait, il y a des gens qui travaillaient à l'ambassade qui ont réussi à se sauver et à se cacher dans l'ambassade du Canada. Et ils savaient que si les manifestants qui étaient installés à l'ambassade américaine apprenaient ça, ils allaient les chercher à l'ambassade du Canada et les tuer. Ou les prendre comme otages. Et dans le fond, le FBI est obligé d'inventer un faux film pour envoyer de leurs agents en Iran en les faisant passer pour une équipe de tournage et faisant sortir les gens réfugiés dans l'ambassade du Canada en les faisant aussi passer pour l'équipe de tournage. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en même temps d'avoir une espèce de thriller politique, d'un côté, tu as une espèce de comédie de situation se déroulant à Hollywood sur le cinéma. Et où le film réussit vraiment très bien, c'est dans les ruptures de ton entre justement la comédie et le thriller politique. En fait, jamais la comédie ou le thriller politique va devenir tellement présent qu'il va écraser l'autre au point que... Les scènes de thriller ne marcheront plus, les scènes de comédie ne marcheront plus. Et la réalisation de Ben Affleck est très, très intelligente à faire marcher les deux tons en même temps. Ce qui fait que c'est un film qui est super efficace pour toute la durée. C'est très efficace. Le suspense marche bien, mais en même temps, il y a des moments qui sont très drôles et il y a aussi des moments qui réussissent à être touchants. C'est un peu un crowd pleaser avec une fin... un happy ending, il y a des moments de suspense qui sont un peu fabriqués et quand on commence à y penser un peu, ça paraît. Ils vont rentrer dans une voiture pendant qu'ils se font courir après, la voiture marche pas, ils sont pas capables de partir le moteur ou des choses comme ça. Mais sinon, simplement pour être capable de faire faire marcher ces deux tons-là en même temps, avec autant de talent, avec autant d'intelligence, c'est quand même un très bon film que pour ça. Et ça vaut la peine d'être vu, franchement.
Oui, et d'ailleurs, pendant que je replace mes écouteurs, en fait, le comique aussi vient beaucoup de l'absurde de la situation.
Oui, ben c'est justement, il saute, comment je peux dire, l'absurde n'est jamais ignoré, en fait, le fait que la situation est complètement absurde n'est jamais ignoré, même dans les scènes de suspense, il va y avoir des gags sur le fait que, putain, je sais pas, moi, c'est quoi être réalisateur, puis il faut que je joue... le fait d'être un réalisateur et ils vont essayer de se donner des styles et quoi que ce soit. Donc, l'espace d'un instant, ça peut être très fort dans le suspense et il y a un gars qui va sortir, qui va venir subvertir l'attention, en fait, ou l'inverse, ils vont être en train de faire des gags et il y a quelque chose qui va arriver très choquant pour eux et là, le stress va embarquer et il le fait tellement bien que ça marche aussi pour le spectateur. On va trouver ça très drôle pendant un moment et en quelques secondes ou même à l'intérieur d'un même plan, souvent, ça va passer au drame de façon super efficace.
Bien, ça a l'air vraiment bien. Et puis, comme tu dis, ils se font passer pour une équipe de tournage canadienne. Une équipe de tournage canadienne. Donc, est-ce qu'il y a des références à notre cinéma à nous? Est-ce que pour les cinéphiles, un peu...
Il n'y a pas vraiment de référence, en fait. Non, au cinéma canadien, non, pas vraiment. Il y a quelques références dans les noms qui sont donnés au cinéma d'Hollywood parce qu'ils vont chercher un costumeur, en fait, qui a fait les costumes de la planète des singes à Hollywood. Et,
un costumier?
Un costumier, pardon. Et un producteur. C'est bien un producteur.
Ouais, non, c'est pas un productier.
Merci. C'est ça, puis il va avoir un peu de noms qui vont sortir une fois de temps à autre et des posters dans le coin, mais c'est pas tant une comédie. Il va pas avoir la distance qui va faire une comédie qui va subvertir le cinéma, qui va se moquer de l'artifice cinématographique. Ça va se moquer un peu de l'univers de production du cinéma plus que du cinéma en soi, de l'esthétique cinématographique en soi.
Ben parfait. Donc, tu penses qu'un gros, un des gros candidats pour les Oscars?
C'est un des gros candidats pour les Oscars, certainement. Et c'est aussi un des candidats pour le prix du public du TIFF, je pense.
Oui, j'ai hâte de voir, d'ailleurs. Parce que souvent, les prix du public du TIFF, ça peut être très surprenant. Hein. L'année passée, c'était « Et maintenant, on va où? » de Nadine Labaki. Un prix un peu qui est sorti de nulle part. Là.
Effectivement. Je ne sais pas contre quoi elle était.
Bonne question. Qu'est-ce qu'il y avait l'année passée au TIFF? Je me rappelle plus vraiment des gros films. Moi, j'écoute souvent les films asiatiques, donc genre c'est pas nécessairement le petit film de Hong Kong qui va remporter les grands honneurs. Mais l'année passée, il y avait quand même The Descendants qui a commencé au TIFF, Moneyball, L'Artiste a joué au TIFF aussi. Puis parmi tous ces films-là, c'est Et maintenant, on va où qui a gagné là, donc.
Ouais, sauf que les autres années, c'est King's Speech, c'est Slumdog Millionaire, qui sont quand même des crowd pleasers.
Ouais, non, c'est ça. Donc, Argo, il y a quand même beaucoup de chance, on croit. The Master devrait avoir aussi pas mal de chance. Je vois pas vraiment quel autre film entre ces deux-là. J'ai vu 30 films, il y en a comme 200 que j'ai pas vu. Donc, il y en a plein là-dedans qui sont des potentiels. Là.
J'entends du très bon feedback sur Anna Karenina, des gens des films, en fait. Dans les films, j'entendais beaucoup de monde dire qu'Anna Karenina était leur film préféré. Et je comprends, c'est un film que j'adore. Fait que peut-être qu'il pourrait surprendre.
Ouais, non, c'est vrai, Joe Wright, avec son excellente adaptation à ce que tu me dis, ça pourrait... Les gens aiment beaucoup les films d'époque, d'habitude, ça fait très... Ça fait sérieux, tu sais, ça fait important quand t'aimes un film d'époque.
Ah, ça fait sérieux, puis c'est un film très lyrique, qui est très touchant, en fait, qui vient nous chercher carrément.
Moi, je vais enchaîner avec ma révélation du festival, qui est en fait une double révélation, parce que... Le film, c'est In Another Country de Hong Sang-soo, un réalisateur coréen qui roule sa bosse depuis une quinzaine d'années. Et, ou peut-être une vingtaine d'années, il faudrait que je recheck mes notes. Mais c'est ça pour moi, c'est non seulement un excellent film que j'ai qualifié carrément de chef-d'œuvre sur Twitter, et puis je le crois, c'est vraiment l'œuvre d'un maître du cinéma qui est en totale possession de ses moyens. Mais c'est non seulement un excellent film, mais c'est la première fois que j'écoute un film de Hong Sang-soo. J'en avais entendu parler du cinéaste, j'avais déjà lu un peu sur lui à travers différents articles ou un livre sur le cinéma coréen que j'ai lu plus tôt cette année. Mais j'avais jamais écouté un de ses films. Et puis, c'est très singulier comme univers. Je trouve qu'il y a une rigueur esthétique qui évoque Ozu, rien de moins. Il y a ses propres thèmes. Puis j'ai fait un peu de recherche après avoir vu le film qui m'a tant marqué. Et puis, il y a beaucoup des thèmes qui reviennent beaucoup dans son cinéma, le sexe, l'alcool, les relations des personnages, le vrai et le faux. Parce que son cinéma, pour moi, c'est plus proche d'une espèce de théâtre absurde ou de l'humour dada que du cinéma classique. Et puis, c'est vraiment rafraîchissant comme approche, en fait. Surtout dans un festival que... Bon, les films de festival, tu l'as dit dans une de tes chroniques, c'est souvent des films dépressifs ou des films durs. Un vrai film artiste, un film où est-ce que il y a de l'inceste, puis c'est en noir et blanc, puis de la violence, tout ça. Puis, In Another Country, c'était pas du tout ça. En fait, l'histoire, si je peux appeler ça comme ça, c'est l'histoire de... En fait, c'est parce que je vais l'expliquer plus tard, mais l'histoire principale, c'est... Anne, une touriste française qui s'en va dans un petit chalet de vacances, prendre des vacances, rejoindre son mari coréen. Et puis, elle se promène dans cette espèce dans les environs du village, sur la plage. Elle rencontre un sauveteur sur la plage. Et puis elle va au magasin avec une jeune Coréenne qui travaille à la maison d'accueil au chalet. Elle rencontre son mari, etc. Mais en fait, le film, il y a vraiment un jeu avec les personnages parce que c'est Isabelle Huppert qui incarne Anne, le personnage principal. Et puis, il va comme y avoir trois histoires qui vont s'enchaîner avec trois personnages qui s'appellent Anne, qui sont tous joués par Isabelle Huppert, mais que c'est tous en fait des variations sur un même thème. Et puis, il va y avoir des scènes et des symboles qui vont revenir, qui vont être repris, des dialogues au complet qui vont être repris, mais joués d'une autre façon, ou qui vont déboucher sur une autre conclusion de scène. Donc, on n'est pas loin de l'expérimentation que pourrait faire un René, par exemple, avec un smoking, no smoking, ou, je sais pas, des cinémas vraiment, tu sais, nouvelle vague français, un peu, qui font vraiment des...
C'est quand même vraiment drôle que tu dises ça, parce qu'en fait, vous n'avez encore rien vu de René qui jouait aussi à Cannes, est basé sur le principe que plusieurs acteurs vont rejouer la même scène, en fait, et effectivement, ils vont la jouer différemment. Mettons, Anne Consigny va jouer une scène de façon très retenue, tandis que Sabine Azéma va rejouer la même scène de façon très extravertie, et donc ça, on dirait carrément que c'est en réponse, ou que c'est un peu dans le même thème.
Ben, j'irais peut-être pas jusqu'à dire c'est en réponse, mais non, c'est ça, c'est... C'est un peu dans le même style, c'est ça. C'est que, sauf que dans le cas de Aung San Suu, c'est que ce sera les mêmes acteurs qui vont rejouer des variations de leur propre personnage et qui vont rejouer des scènes, mais sur des tons différents. Comme, fait qu'au niveau narratif, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, ça donne lieu à des gags complètement farfelus et très drôles, très dadaesque, comme j'ai dit. Parce que ça sera vraiment de l'humour bon enfant, en fait, et de l'humour très drôle. Évidemment, il y a toute une partie sur la différence, les différences de culture entre cette touriste française qui parle en anglais brisé avec un Coréen qui parle à peine anglais. Ils doivent se faire des simagrées et puis des onomatopées pour essayer de se comprendre. Et puis, il y a comme une scène qui revient souvent que le personnage Dan cherche le lighthouse, donc le voyons, sur le bord des... Comment t'appelles ça? Un phare. Elle cherche le phare. Et puis, elle demande au sauveteur, au lifeguard coréen. Et puis, il a la misère à comprendre le mot « lighthouse ». Donc, il a fait répéter longtemps. Comme « Non, I don't know. Lighthouse. » Puis là, il se gratte la tête, comprend pas. Puis là, elle explique tout ça. Puis il est comme « Oh, lighthouse, yes, lighthouse. » Puis là, il est comme « Oui, lighthouse, you. Où est-ce qu'il est? » Puis, « Oh, I don't know. » Puis genre, c'est comme... C'est, ça n'a pas de l'air drôle quand je le compte, mais il faut le voir pour comprendre. Mais c'est une scène qui... Tu sais, c'est 3-4 minutes, un échange. Et ça, c'est donc, au niveau narratif, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est dur à... Les performances sont très bonnes. C'est sûr que c'est dur à définir dans un cinéma aussi absurde et aussi calculé. Sauf que, étant donné qu'on voit plusieurs variations d'une même scène, on peut vraiment voir le range des acteurs. Donc, tu te rends vraiment compte à quel point... Parce que c'est comme du naturel calculé. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, là. Mais tu peux voir que... Parce que c'est vraiment des longs plans, en fait. Là-dessus, Aung San Suu est pas loin d'un Haneke ou d'un Mizoguchi, dans le sens qu'une scène, bien souvent, ce sera un seul plan. Donc, de les voir improviser, puis s'échanger comme ça, se réagir l'un à l'autre, tout le temps avec des subtilités différentes lorsqu'ils reprennent les scènes, c'est vraiment impressionnant. Et au niveau formel, c'est ça, c'est très, très rigoureux. Le plan typique de Aung San Suu, en fait, bon, j'ai vu un film, je sais pas si c'est comme ça pour tous ces films, mais j'ai lu sur Internet que c'était souvent ça, en fait, c'est que sa caméra est totalement fixe. Elle est sur un axe fixe, et elle va donc tourner sur son axe. Elle peut faire des pannes, des panoramiques ou des tilts, etc. Et elle effectue des zooms. Donc, on peut commencer, mettons, sur un gros plan d'Isabelle Huppert. Là, on va zoomer out vraiment rapidement et recadrer, faire un two-shot, mettons, avec l'autre acteur. Mettons, on est dans un café. Puis après ça, on va peut-être aller lentement zoomer vers l'acteur coréen. Puis là, on va tasser à droite pour voir autre chose qui regardait au loin. On revient sur eux. Donc, toute la scène, finalement, se joue en un plan. Mais la caméra est vraiment vivante et il y a le même esprit bon enfant et un peu l'improvisation calculée dans la caméra qu'on peut retrouver aussi dans le jeu des personnages. Donc, au total, c'est un film de 1h30 qui offre plein de possibilités, qui aurait pu en durer 3 heures tellement, finalement, le jeu qu'apporte Aung San Suu dans son cinéma est infini, finalement. Il propose seulement des personnages, une histoire absolument simpliste. Et c'est tout le jeu entre les trois niveaux, comme les trois histoires qui se font des échos, en fait. Et pour te donner un exemple, la première Anne remarque sur la plage une bouteille brisée de soju. On parle beaucoup de soju dans le cinéma de Hong Sang-soo. C'est une espèce de, j'imagine, l'équivalent du saké, mais coréen. Donc, une bouteille brisée de soju sur la plage. Et puis, il y a une scène de chaman qui se plaint. Je dis, qui pourrait faire ça? Il n'y a aucune considération. Ça n'a pas de bon sens de faire ça sur une belle plage comme ça. Et puis, dans la troisième histoire, Anne 3 se saoule à un moment donné sur la plage avec le lifeguard et brise sa bouteille de bière, de soju sur la plage. Donc, ça fait comme une espèce d'écho à la première Anne. Donc, le film est parsemé de cette espèce de renvoi d'un personnage à l'autre. Donc, c'est vraiment impressionnant, en fait, comme cinéma.
Est-ce que tu penses que le ton léger ou un peu badin du truc lui aurait nuit à Cannes? Parce qu'il n'a pas reçu des très bons commentaires, en fait, puis il n'a pas gagné de prix, à ce que je cherche.
Ben, écoute, je sais pas. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est ce qui fait tout le charme du film. C'est justement son humour enfantin. Ça rappelle aussi du Tati, en fait, du Jacques Tati. Puis pour moi, c'est un humour qui reste intemporel et puis c'est un jeu, en fait. C'est un jeu que le cinéaste propose au spectateur. Et puis, si t'as pas envie de jouer, t'as juste le goût d'assister à une bonne histoire, mais il faut que tu passes ton chemin parce que c'est pas ça. Et puis, c'est pas nécessairement un film qui est très accessible parce qu'il faut que le spectateur accepte qu'il participe à un jeu plutôt que de se faire raconter une histoire.
C'est un jeu intelligent, donc.
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une claque, en fait. Et puis, c'est superbe de voir que les cinéastes qui s'interrogent encore sur la forme narrative de nos jours, même si c'est, comme je le dis, c'est pas nécessairement. Je veux dire, moi, pour moi, c'est très inspiré du théâtre d'écho, du théâtre absurde, de l'humour dada et tout ça. Mais comme ça, transposé au cinéma, je trouve que c'est génial.
Parfait, ça a l'air très bien.
Ouais, donc In Another Country, dans un autre pays. Donc, Sang-soo, je vais, sans, en tout cas, si ça sort, moi, je vais essayer de le rattraper, le revoir une fois pour encore pour pouvoir commencer de spotter tous les petits échos que j'ai manqués. C'est très, très bien. Et puis aussi, quoi que j'ai pas dit, mais dans les répétitions de scène, il y a aussi la caméra, des fois. Il y a tout un jeu avec la composition parce que parfois, avant même de voir un acteur, on reconnaît un plan, on reconnaît un cadre. Donc, on le sait que là, c'est maintenant, c'est une répétition. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais...
Je comprends parfaitement ce que tu veux dire.
Donc, c'est ça. On joue avec l'anticipation du spectateur aussi, avec sa mémoire, en fait. Ça devient un peu un jeu de mémoire et de te rappeler cette composition. Puis, il y a comme le plan de profil, qu'il y a la jeune fille qui descend l'escalier, qui revient comme 6 fois dans le film. Puis, à chaque fois, elle porte... Il y a comme des variations dans le plan. Puis, c'est vraiment un plaisir, en fait. C'est une espèce de jeu de... Tu sais, les jeux de cartes de mémoire, là, tu retournes, il faut que tu trouves 2 cartes similaires. C'est un peu comme ça, dans un sens. Si ça peut t'intéresser de jouer à repérer les similitudes, tu vas vraiment trouver ton compte dans ce film.
Bon, ben, ça a l'air super intéressant. Et je suis déçu de l'avoir raté 2 fois plutôt qu'une.
Ouais, et d'ailleurs, t'es pas allé voir The Thieves, malheureusement. Tu m'as dit que t'irais le voir, mais t'as choqué ça.
Ah, j'ai choqué. C'est quoi, tu veux m'humilier devant tout ton auditoire?
Non, c'est pas non plus un film inoubliable. Je veux dire, c'est un très bon film d'action, mais je pense pas non plus que t'as raté grand-chose. T'as quand même vu une trentaine de films pendant le festival.
Ouais, j'ai vu 30 films pile, en fait.
Parfait. Est-ce que t'avais d'autres quelque chose d'autre à dire sur Toronto, sur le festival ou sur un film en particulier?
Il nous reste combien de temps, en fait?
Ben, tu sais, c'est très libre à point de vue. Hein. On n'est pas dans une émission de... Mais je pense que tu as le temps de, si tu veux, parler d'autre chose.
Ben, personnellement, tu as parlé de Passion, qui était ta déception du festival ou ta dope du festival. Je pense que je vais parler de la mienne, qui est même pas Spring Breakers, qui était relativement décevant. Mais je pense que le pire film, c'est The Impossible, que j'ai vu.
Donc, ouais.
Donc pourtant, j'attendais quelque chose, vu le réalisateur, en fait.
Ben, le réalisateur et la bande-annonce laissaient quand même présager de quoi de bien. Bon, sentimentaliste, certes, mais du moins, techniquement, ça a l'air assez impressionnant.
C'est impressionnant techniquement ça. Je mentirais si je disais le contraire. En fait, la scène, ben, dans le fond d'Impossible, très rapidement, c'est l'histoire du tsunami du 26 décembre 2004. En fait, où on va suivre une petite famille, je crois qu'ils sont anglais, qui viennent d'Angleterre, mais je suis pas parfaitement sûr. C'est réalisé par le réalisateur qui avait fait L'Orphelinat, en fait, qui était quand même un solide film d'horreur. Donc, on suit cette famille-là qui est composée de trois enfants, de Naomi Watts et d'Ewan McGregor, en fait. Et ils vont être sur la plage lorsque le tsunami va arriver, mais ils vont pas mourir, mais ils vont tous être séparés les uns des autres. Ils vont essayer de se retrouver dans le tsunami. Ben, post-tsunami, dans les inondations, et ça va se terminer dans des hôpitaux remplis de gens et où ils vont essayer de se retrouver là-dedans. Donc, en fait, le gros problème de ce film-là, c'est que c'est pas juste un peu sentimentaliste, ça l'est franchement beaucoup et de façon très grossière. On va voir le sein à moitié arraché de Naomi Watts, on va voir la moitié de sa jambe complètement ensanglantée. Naomi Watts, les personnages sont jamais crédibles. C'est des personnages vraiment préfabriqués. Il va avoir des suspenses préfabriquées où ils vont trouver un enfant, et là, plus tard, le père va retrouver son enfant. Il va avoir la grosse scène avec la grosse musique braillarde et tout. Dans le fond, ce que je trouve, c'est un film qui est relativement choquant. Je veux pas essayer de faire un jugement moral, mais c'est ce que je suis en train de faire, parce que c'est des images, les images du tsunami, c'est des images qu'on a déjà vues, et ce film-là ne fait que les recréer en lui rajoutant une espèce de pathétisme qui est vraiment ridicule au final, si on le prend avec un peu de cynisme. Et c'est pas un film qui est produit à Hollywood, mais c'est exactement un film catastrophe hollywoodien. C'est exactement la même chose qu'un 2012 ou qu'un Volcan ou toutes ces conneries-là. En fait.
Ou que n'importe quel film de la filmographie de Roland Emmerich.
Ouais, pas mal. Même chose. Mais effectivement, techniquement, c'est assez impeccable. Il y a des scènes, c'est pas des plans séquences, mais vous savez, il va y avoir des scènes où dans l'hôpital, un des fils va chercher son père. Il va descendre les escaliers pendant que son père est en train de les monter. Ils vont comme se rater de justesse et des trucs comme ça. Et c'est fait avec des relativement longs plans que tu vois que c'est quand même assez bien organisé. Fait que, techniquement, il y a quelque chose de vraiment pas mal, mais le scénario est absolument infect. Et c'est tellement vulgaire dans la façon dont c'est présenté, dans la façon dont ils vont chercher l'affect. Avec, il y a une scène où que Naomi Watts genre vomit ce qu'elle a avalé pendant le tsunami, parce qu'il y a comme du métal qui est rentré dans la gueule. Elle vomit ça avec du sang et tout ça. C'est comme un beau shot là-dessus, et c'est comme supposé être dégueulasse et provocant. Moi, je trouve ça absolument stupide et chiant.
Donc, est-ce que tu trouves que c'est un film finalement qui est pas très respectueux envers l'événement, qui se veut un peu du sensationnalisme?
Je trouve que c'est parfaitement irrespectueux envers l'événement, et c'est parfaitement irrespectueux envers le spectateur qui a déjà vu ça et qui a déjà vu les événements avec des vraies images, et si on avait rajouté un vrai propos ou au moins une vraie idée, alors que là on fait juste rajouter le sensationnalisme que les médias faisaient déjà pas mal.
Et puis, Naomi Watts et Ewan McGregor, c'est quand même pas les acteurs les plus dégueux. Donc, est-ce qu'ils s'en sortent ou finalement, ils n'ont pas le matériel pour apporter une bonne performance?
Ils se débrouillent très bien vu la connerie du truc, parce que, je veux dire, on leur demande de pleurer, ils pleurent, on leur demande d'avoir de l'air apeuré, ils réussissent. Mais effectivement, vu le scénario, ça marche comme pas, à moins qu'on soit aisément manipulable. À moins qu'on aime ce type de cinéma, hein, je veux dire, niveau sensation forte, je pense que c'est relativement efficace. Mais c'est ça.
Donc, si tu le compares là, à d'autres films catastrophes, là, t'en as nommé quelques-uns, on pense aussi à Titanic, Le jour d'après, etc. Est-ce que c'est y a quand même sa place parmi ces films-là, ou tant qu'à ça, on se reloue Le jour d'après?
Ben, c'est du même niveau que Le jour d'après, que je trouve assez mauvais aussi, mais Titanic, c'est franchement meilleur que ça.
Donc, OK, ben, c'est décevant pour ce cinéaste. On va espérer qu'il va trouver des films plus qui va finalement lui permettre de mieux s'exprimer finalement et de...
Sinon, ton coup de cœur du festival?
Ah ben moi c'est In Another Country de... d'une part In Another Country de Aung San Suu, mais faudrait pas non plus négliger le Gangs of Wasseypur de Ratchitek. Il faudrait que je recheck son nom, mais Gangs of Wasseypur, c'est un gros morceau. Et puis toi, Bobo?
Mon coup de cœur, ce serait Anna Karenina, en fait, parce que c'est un réalisateur que j'aimais beaucoup ses débuts, moins son milieu, donc j'avais un peu peur de l'adaptation qu'il allait faire. Et j'aime beaucoup Powell et Pressburger, et c'est pas un cinéaste dont les influences se font beaucoup sentir ces temps-ci. Et de voir un cinéaste s'influencer à ce point, de façon aussi claire, puis de pas traiter ça comme un... C'est un drame en costume, mais de pas traiter ça aussi simplement que les drames en costume habituels, je trouve. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plus surpris qu'un film aussi bon ou même meilleur comme est The Master.
Tout de même. Moi, je n'ai pas vu The Master, malheureusement. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, voilà, c'était notre couverture pour Toronto. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez eu quelques heures à tuer avec nous. Et puis, nous, on va se revoir très bientôt, en fait, parce que là, mes deux collègues, Rémi et Pascal, ont finalement fini le tournage des Jaunes. Donc, ce lundi, en fait, on est censé enregistrer officiellement notre nouvel épisode de Point de vue là, à la régulière, avec actualité, avec sortie DVD et tout, et avec mes collègues usuels. Donc, on va pouvoir faire le point sur leur tournage, on va pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé... dans l'actualité dernièrement. Je sais que le Festival de cinéma de la Ville à Québec est en branle. Il commençait hier, jeudi le 17 septembre. On souhaite du bien à ce festival. Malheureusement, on ne pourra pas le couvrir, mais je crois que Pascal il est allé faire un tour. Donc, il va nous revenir avec les critiques de L'Affaire Dumont et je ne me rappelle plus du titre, mais Avant que ton cœur ne bascule, de Sébastien Rose, voilà. Et donc, on va se retrouver avec notre programmation habituelle qui va être à chaque semaine. Donc, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landriau. J'étais avec mon invité,
Olivier Bouchard des Fiches du Cinéma.com.
Merci beaucoup et bonne semaine.